Vous aimez les livres, les auteurs, alors vous êtes à la page. À l'invitation de Éric Rouillet, producteur des émissions musicales classiques que vous pouvez retrouver dans la rubrique Cantabile sur notre antenne, Anne-Sophie Montoisy et moi-même avons été visiter l'exposition consacrée à Kandinsky récemment à Paris. Nous avons pu discuter longuement avec Mikhail Roudy, pianiste d'origine russe de renommée mondiale, qui fut le directeur musical de l'exposition. Vous retrouverez d'ailleurs l'enregistrement de la visite de cette expo dans Culture et vous, en deux épisodes. Mais pour l'instant, c'est du dernier livre publié par Mikhail Roudy que Éric Rouillet et moi-même allons nous entretenir avec l'auteur. Dans ce premier roman où, entre guillemets, tout est inventé, même les choses vraies, Mikhail Roudy, l'un des plus célèbres pianistes de sa génération, nous plonge dans le mystère de la création artistique sur fond de perestroïka, période charnière qui met fin à 70 ans de régime soviétique. L'histoire se passe en septembre 1988. Tout juste promu professeur de piano au prestigieux conservatoire de Moscou, Konstantin Toumanov accueille François, un jeune Français qui se révèle un authentique génie. Il le prépare pour le légendaire concours Tchaïkovski où s'affrontent les meilleurs espoirs pianistiques du monde. Mais François, tourmenté et incontrôlable, s'émancipe avec violence des règles et des conventions. Rien ne se passe comme prévu. Qui est le maître ? Qui est le disciple ? Dans la confusion des sentiments naît une passion amoureuse, libératrice et tragique, qui fait écho au chaos de cette époque où le verrou saute, les portes s'ouvrent et l'on ne sait pas encore qu'elles vont aussitôt se refermer. Le disciple est publié aux presses de la Cité.
Parlant de plaisir secret, est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles de Mikhail Roudy, écrivain ? Le disciple, dont on a beaucoup parlé, qu'on a lu, une fiction réelle ou une réelle fiction, on ne sait pas trop, par rapport à une vie, beaucoup de piano, beaucoup de musique. Et je crois que vous êtes dans la rédaction d'un ouvrage, d'un roman.
Dans quelques jours d'ailleurs, il ressort mon premier livre, qui, sous un titre qui était... comme sous-titre, mais c'est un vrai titre, « L'impatience de vivre ». Donc ça ressort avec une préface que j'ai écrite, un autre texte que j'ai écrit, mais le reste, c'est pareil. Mais ça ressort dans une nouvelle édition, je pense que de mois-là, fin janvier. Pour Kandinsky, j'ai écrit un peu de texte, enfin, j'ai fait conférence à la Sorbonne sur tout ce thème-là. Mais après, il faut que je travaille un peu le piano. Après, on va faire nos disques, comme on a dit, les choses de bandes. Mais un autre livre, j'ai tout à fait les idées, mais ça, il faut entrer dans une... Ça prendra tellement de temps, là.
Il faut préciser que vous n'écrivez pas, si vous êtes russe, mais que vous vous plaisez à écrire en français, directement en français.
Ça, c'est malgré minimum 2-3 erreurs dans chaque phrase, minimum. Je le vois quand j'ai écrit.
De toute façon, les natifs francophones, ils font aussi des fautes. Donc ça, c'est pas une excuse.
Moi, j'ai jamais appris le français. De toute façon, je pensais pas rester en France. Je pensais aller en Amérique. Je suis parti en Amérique. Je suis retourné. Et après, j'ai vécu à Londres. De toute façon, je pense que ça n'a jamais été ma priorité, en vérité.
Moi, je voudrais vous poser la question. Est-ce que l'écriture, pour vous, c'est une urgence?
En fait, c'est venu progressivement. C'est-à-dire, je faisais toujours quelque chose pour moi. Je faisais des films de vidéo art qui étaient à London Short Film Festival. Enfin, j'ai toujours fait des choses, mais presque en catimini. Parce que c'est mal vu. Les gens qui font des choses différentes. Donc, je faisais pour moi parce que, en fait, j'ai grandi dans une ville provinciale qui est Donetsk. Et donc, personne m'a influencé. Moi, quand je suis arrivé à 16 ans au conservatoire Tchaïkovski à Moscou, j'étais très étonné parce que je pensais que les gens s'intéressent à autre chose que le piano. Moi, je lui parlais de, je sais pas, de John Coltrane, de Emily Dickinson, de je sais pas, des choses, mais les gens n'étaient pas totalement ignorants, ils sont toujours ignorants. Et donc, j'ai vu que je me suis formé moi-même. Et donc, ça, donc c'est cette base que les différentes sortes d'art qui m'intéressent de mon adolescence, ça restait. Et donc, dès que j'avais une possibilité d'écrire une pochette de disques, texte que j'ai écrit, j'ai un Vigneron sur le disque de Schubert, enfin, j'ai quelques textes qui sont pas mal, mais vraiment, c'était comme ça, au hasard. Et donc, après, j'ai eu un spectacle théâtral qui je pensais faire une seule fois, d'après le livre de Vladislav Spilman, Le pianiste, qui est paru avant le film, tout ça. Et on a fait une seule fois, et en fait, c'était un succès international. On a fini par faire 10 différentes, différentes régisseurs dans 12 pays différents. Enfin, on l'a donné dans le monde entier. Et j'ai vu, bon, ça peut aussi faire quelque chose d'intéressant. Et après, il y avait l'histoire de Kandinsky. Et après, j'avais des histoires très douloureuses, personnelles, qui m'ont fait... que mon ami écrivain Vladimir Fedorovski savait que j'ai envie de raconter ça, écrire. Et il m'a plus ou moins poussé. Moi, je ne pensais pas faire autobiographie. Je n'aime pas du tout parler de moi, de voir Instagram. Je ne poste rien. Enfin, ma vie, c'est ma vie. Je n'ai pas parlé. Mais quand j'ai eu cette possibilité d'écrire, je ne pouvais écrire qu'en français parce que je raconte cette histoire dans le livre. J'ai fait pendant plusieurs années psychanalyse. Et donc, quand j'arrive chez mon psychanalyste, il était russe d'origine, Michel Sapir, un grand monsieur qui est né à Moscou en 15, enfin, et qui était très cultivé, on a ami de Jacques Prévert, on parlait avec lui de la culture, tout ça en russe. Des secondes que j'ai commencé les séances, j'étais incapable de le faire en russe. Je pouvais faire qu'en français. Ça m'a montré que donc ça s'est enfoui tellement. Voilà. Après, séance finie, on a recommencé le russe. Et donc, voilà. Et donc, moi, je considérais ce livre autobiographique comme une possibilité que ma vie m'a offert pour que j'ai écrit quelque chose. Et donc, je l'ai écrit, mais c'était très, très, très difficile. Très difficile.
Quand même quelques phrases qui sont très, très, très fortes, très prenantes. Je pense par exemple ici, parce que j'ai pris quelques notes, hein, à la page 181, vous dites qu'un pays bâti sur une utopie de bonheur universel débouche sur un cauchemar.
La réalité, j'aimerais bien avoir le tort dans ça. J'aimerais beaucoup, mais malheureusement, la vie me montre que c'est horrible. C'est comme si il voulait effacer, et Poutine voulait effacer tout ce qu'ils ont fait pendant Gorbatchev. Là, c'est vraiment ce grand débarrage. C'est horrible ce qui se passe. Moi dès le premier jour, quand c'est arrivé, je me demandais, je donnais une interview, je dis que c'est chose très, très dure. Je suis dans la liste noire maintenant. Et donc, j'ai annulé tout ce que j'ai à Moscou. Enfin, je vais pas là-bas parce que je trouve ça horrible ce qui se passe.
Est-ce que vous trouvez que l'histoire se répète encore une fois?
Comme disait Marx, il se répète une tragédie, après ça peut être un vaudeville, enfin, quelque chose comme ça. Il se répète, mais il se répète de façon un peu différente. Enfin, c'est une caricature.
Évidemment, sans révéler le sujet profond de votre livre, je le place sur deux plans. Il y a toute l'analyse de la société soviétique de l'époque qui est très très bien décrite, que j'ai ressenti moi-même en ayant fait une très courte incursion, mais c'est très 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 prenant, très véridique. Et alors il y a les deux protagonistes essentiels de l'histoire, le disciple et si disciple il y a un professeur. Et donc on est de nouveau dans une autre dimension culturelle, dans un autre art, on est dans la musique, mais vous faites une référence directe, on comprend tout de suite, à l'art de l'écriture et à deux monstres de la poésie française.
Oui, bien sûr, c'est Arthur Rimbaud et Paul Verlaine, bien sûr. Mais c'est un livre un peu à tiroir.
Exact.
À tiroir, donc, voilà, c'est mon premier essai, écrire un roman, c'est très difficile. C'est très difficile d'intéresser. Et j'ai écrit par les choses que je ne connais pas, qui, donc voilà, j'ai essayé. Il y a des choses qui c'est difficile à dire, parce que quand je parle de tel ou tel personnage, j'ai essayé une fois de trouver la genèse d'un personnage secondaire. Et j'ai écrit à la main une quarantaine de pages. Parce que c'est ça. Mais disons, c'est aussi Rimbaud et Verlaine, c'est un petit peu Mozart et Salieri, c'est disciple, mais aussi ironique, c'est qui est disciple de qui. Et donc, c'est une question comment c'est le génie, qu'est-ce que ça veut dire le génie?
Qui apprend quoi à qui, en
qui
fait?
Qui apprend quoi? Quel est le lien?
Oui, parce qu'ils ont le même âge. Quand on dit disciple et professeur, en général, il y a une différence d'âge, il y a un décalage.
50.
Ici, ils sont pratiquement...
50 de différence. L'élève, il a 18 ans et le narrateur, il a 23 ans. Mais c'est observation des choses qui... Il y a beaucoup de choses qui sont de la vie réelle que j'ai vécue. Il y a beaucoup de choses, mais c'est très, très mélangé. C'est très mélangé. Il y a des choses que j'aurais voulu vivre. Il y a des choses Il y a vraiment des fantasmes. Par exemple, le fantasme du dernier concert, c'est quelque chose qui m'a poursuivi depuis 30 ans. J'avais envie que cette dernière scène de la folie, ça c'est quelque chose que j'aurais pu écrire, je n'ai peut-être pas pu, mais en tout cas voulu écrire il y a 30 ans, j'étais déjà prêt pour écrire cette scène quand tu sors, c'est ton dernier concert dans ta vie et tu enfin, bah,
je crois que c'est le fantasme de tout musicien.
Mais en tout cas, j'ai donné beaucoup de chair à ce fantasme. C'est beaucoup de choses qui se passent, précisément, qui sont... Voilà, donc... Et ça, donc, je peux pas dire est-ce que ça correspond à choses réelles ou non, parce que... Est-ce que le fantasme, c'est une chose réelle ou non? Parce que si, donc, c'est une scène qui était au début de projets, parce que je sais comment ça va finir. Voilà.
Ouais, c'est quand même l'écrivain qui décide ce qui va arriver à ces personnages.
Après, il y a des nuances qui sont presque... par exemple, il y a une scène qui se passe à Rome. La scène réelle s'est passée à Venise. Je ne voulais pas écrire Venise parce que c'est trop romanesque. Donc il y a des nuances comme ça. Parce que je dis, j'ai écrit Venise, tout le cliché.
Vous auriez pu écrire Vérone aussi.
Hein?
Vous auriez pu écrire Vérone.
Non, mais j'aime beaucoup Rome.
voudrais vous relancer sur une dernière phrase et puis on va peut-être arrêter là parce que on va pas vous fatiguer outre mesure. Et là, c'est tous les musiciens qui sont autour de la table. Vous avez dit dans votre livre que, enfin, moi je me pose la question, je le traduis comme ça, que l'interprète reste l'esclave du compositeur. C'est un petit peu ce travail-là, parce que qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce qu'il a donné les indications nécessaires, le compositeur, l'interprète? Est-ce qu'il a, jusqu'où peut-il aller dans sa touche personnelle sans trahir l'esprit du compositeur?
Ben, c'est un petit peu ce qu'on a parlé tout à l'heure, que ma vision des professions d'interprète, je trouve que c'est une profession qui est vraiment limitée dans le temps, et donc on peut dire qu'avec ce type de compositeur qui écrit à un certain moment, il faut faire très attention parce que vous voulez ça. Mais même à la fin, même quelqu'un comme Stravinsky qui était toute la sécheresse, il préférait l'interprétation plus personnelle qui est même lui-même. Donc c'est très ambigu. Moi, je pense que si on ne donne pas soi-même, ce n'est pas la peine de faire parce que ça crée les copies, et après on vous juge, vous êtes bien si vous copiez bien. C'est un peu ça la profession d'interprète vue aujourd'hui, parce que c'est basé sur une période historiquement définie, et cette période-là on voyait l'interprète voilà comme ça, et donc en plus après ça allait encore plus à l'époque des années 60-70, Boulez, Pauline et tout ça, on a venu jusqu'à complète abnégation de soi-même, ce qui était considéré plus une abnégation de soi-même, mieux on est vu. Donc de toute façon, pour moi, c'est aussi un cul-de-sac, autant que cul-de-sac la musique de décaphonique. Ou la peinture en strèbe, vue par Mondrian, tout ça, c'est des démarches qui arrivaient au bout. Enfin, après, il faut descendre d'un fan, on descend d'un fou, ou jouer au moins, que ce soit, je ne sais pas, un Glenn Gould, enfin, quelqu'un qui veut vraiment des choses personnelles, et qui croit que Bach voulait ça. Maintenant, il y a mille façons de montrer que Bach ne voulait pas ça, mais n'empêche que la variation Goldberg entrait dans le répertoire après Glenn Gould. Avant, c'était la musique pour endormir le comte Goldberg. Personne ne prenait cette musique comme un chef-d'œuvre. Donc voilà, et avec ça, Glenn Gould a pu enflammer enfin, les gens, et ils ont compris que c'était une musique géniale. Et peu importe, est-ce que c'est fidèle à Bach ou non. Voilà, donc c'est très complexe l'histoire d'interprète. Mais en même temps, il y a des compositeurs tellement précis, tellement... Voilà, un compositeur comme Debussy, par exemple, chaque moindre virgule, il faut le voir. Donc, c'est aussi dépend. Ça dépend aussi des répertoires. Je pense que la réponse n'est pas juste ça ou ça. C'est et ça et ça. Quand Michel-Ange joue Debussy, voilà, voilà. Quand Carlos Kleiber dirige Brahms, voilà. Mais en même temps, quand 1000 personnes font la compétition qui est le plus fidèle et qui est le plus... Moi, je ne peux pas. Je vois l'affiche d'une ouverture de, je sais pas, de Beethoven, concerto de Rachmaninoff et le Sacre du Printemps. Je fuis, je ne peux plus. Parce que ce monde est devenu un monde complètement... C'est comme un petit peu comme patinage artistique. C'est vaguement artistique, mais en même temps, c'est athlétique. Donc, ce qu'on demande, c'est que la capacité d'athlète. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que la musique qui est moins connue, c'est déjà la première musique qu'on a envie de jouer et découvrir. C'est là aussi, là où on est encore au stade où il y a tellement de répertoires qui ne sont pas... se battre pour le répertoire, c'est une des choses d'actualité pour moi, pour les interprètes. Déjà, pour vous parler, j'étais effrayé par cette histoire de concours Chopin. Quand tout le monde joue Chopin depuis des années, enfin, Dieu sait que j'adore Chopin, mais voilà, on ne peut pas expliquer enfin, pourquoi les gens ne prennent pas un autre compositeur. Enfin, je ne sais pas, ceux qui sont le plus fort prennent toujours la musique qui est le plus demandée, voilà. Et maintenant, ça va dans cette direction encore plus, maintenant, avec toutes ces playlists, tout ça, c'est... Donc voilà, je pense que on a plusieurs façons d'enrichir l'art d'interprétation, et chacun doit choisir, mais juste, il y a des gens qui choisissent pour être succès social, tout ça, oui. Il y en a d'autres qui choisissent d'autres voies, donc moi je pense que c'est encore possible, mais c'est une lutte en fait. C'est une lutte, il faut défendre.
Спасибо.
Пожалуйста, на здоровье.
Спасибо.